Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Quand je suis arrivé chez mon invité pour préparer cette émission, il est venu à ma rencontre. J'avais parqué ma voiture au mauvais endroit, je risquais de me faire engueuler par un voisin. Oui, parce que son entreprise, elle est dans un quartier résidentiel. Le siège, c'est la maison de ses parents. J'arrive dans la cuisine, une plante verte côtoie un prototype de drone. Il y a un boxeur au sol, le chien, hein, pas le sportif. Autour de la table, ils sont deux, 19 et 21 ans. Jeune pour être patron, oui, mais sacrément motivé. L'entreprise est bien réelle, c'est une SARL et le projet franchement intéressant autour d'une passion, le drone. Des photos aériennes, oui, mais aussi du sauvetage de victimes d'avalanches et peut-être bien une école. Pour en parler ce soir, nous recevons l'un des directeurs de l'entreprise Horizon Drone, Tom Panettieri. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des directeurs de cette entreprise. On va parler de tous ces projets d'Horizon Drone. Avant ça, juste quelques mots sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir les drones ?
À la base, c'était plutôt une passion qui était un peu dévorante pour tout ce qui était modélisme, hélicoptère. Et au fur et à mesure, il y avait l'intérêt pour faire quelque chose de plus avec ces drones qui commençaient gentiment à prendre de l'ampleur fin 2014. Et ensuite, au fur et à mesure, plus la technologie elle a commencé à se réduire, plus il y avait possibilité de faire beaucoup plus de choses que de la simple photo ou du simple loisir.
Vous vous rappelez du moment où vous avez eu un objet volant entre les mains la première fois ?
Oui, je me souviens, puis je l'ai craché.
C'est vrai ?
Ouais, le premier, c'était démolition complète, au bout de 3 minutes de vol, sur un hélicoptère.
Ah oui, ok, bon, c'était un bon début.
C'était un bon début, ouais.
Et ensuite, avec les drones, donc, comment ça s'est passé ? Aussi un crash ?
Ouais, alors quelques heures de pratique, un petit peu un vol un peu trop loin, puis passer derrière un immeuble, puis crasher.
Ah oui, donc voilà, vous n'avez pas peur d'aller au front, quoi.
Ouais, il faut commencer pour connaître les limites de l'appareil.
On fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Exactement.
Dit-on. À côté de ça, vous avez une formation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Alors, je suis apprenti ferblantier en 3e année, donc je termine ma formation cette année chez Vali à Malraix.
Rien à voir avec les drones, donc.
Rien à voir du tout avec les drones. Et en parallèle, donc, on a ouvert la société Horizon Drone en début de cette année, et c'était pendant 2 ans et demi une start-up sans forme légale.
Et là, maintenant, c'est une SARL.
Et maintenant, c'est une SARL.
Et à quel moment vous vous êtes dit, mais j'aime tellement ça, je veux en faire mon métier ?
Ah, je sais pas trop. C'était vraiment cette idée de... Je sais pas, donc c'était peut-être à cause du téléjournal dans lequel j'ai vu qu'il y avait eu des contre-avalanches sur des secouristes, ça avait blessé des gens. Puis je me suis dit qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir apporter quelque chose en plus. Alors, il suffisait de le mettre en pratique et puis développer quelque chose.
Ça a été quoi la réaction de votre entourage au moment où vous avez dit à 19 ans, enfin même plus jeune, vous avez 17-18 ans, hein, à cette époque-là, je vais fonder mon entreprise.
Au début, on m'a dit, termine ton apprentissage, on en reparlera après.
Évidemment. Ce que vous allez faire d'ailleurs.
Oui, ce que je vais faire, bien entendu. Et puis ensuite, c'était beaucoup de réflexion, puis il y avait de la motivation d'un côté, mais de la démotivation aussi de l'autre côté, parce que c'est beaucoup pour un jeune adulte. Mm-hmm. Puis on m'a dit, il faut d'abord avoir des bonnes bases, il faut... plus voir d'autres domaines, etc. Puis après, je me suis dit, non, maintenant, faut que je fonce, faut que je fasse quelque chose pour apporter quelque chose aux secouristes, et puis partir donc, sur ce prototype.
Créer une entreprise, il y a beaucoup de frais, il y a un financement à trouver. Comment vous avez fait ?
Tous mes salaires de mon apprentissage.
Ouais. Ah ouais, donc
ça a toujours été tous des fonds privés. On a essayé de faire 2 campagnes sur Kickstarter et puis sur WeMakeIt, qui n'ont pas abouti. Et puis sinon, ça a toujours été des fonds privés.
Financement participatif, ça n'a pas fonctionné. Pour quelles raisons ?
Il faut croire que les personnels préfèrent des drones développés pour faire des selfies plutôt que des drones pour sauver quelqu'un.
C'est vrai qu'on voit souvent passer des projets de financement participatif sur des drones. Mais là, le fait que ce soit des avalanches, que ce soit pour sauver des gens, ça n'a pas pris.
Non, ça n'a pas pris. Peut-être que c'est parce qu'on est en Suisse et qu'il n'y a pas assez de développement sur les nouveaux projets. Ou c'est que les gens ils vont dire, je vais investir là-dedans, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Les gens ils vont attendre d'avoir déjà quelque chose en place, puis déjà quelque chose de fixe pour se dire ensuite qu'ils vont investir.
Oui, donc le salaire, le financement vient de vos salaires d'apprentissage, à vous et votre collègue, puisque vous êtes deux, on en parlera. Les sacrifices, ils ne sont pas uniquement financiers, vous êtes en formation, en apprentissage, et à côté de ça, une entreprise qui vous prend beaucoup de temps. Vous n'avez plus dormi depuis un petit moment, là, vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne.
Oui, ça fait un 100% donc dans mon apprentissage et un autre 100% donc dans l'entreprise, pendant laquelle on peut faire du développement donc pendant la nuit. Donc on ne travaille pas sur les chantiers. Et c'est tout mon temps libre, c'est les week-ends à voler, c'est les week-ends à faire des réparations, à développer. et ça prend énormément de temps.
Mais là, concrètement, vous n'avez plus dormi depuis mercredi matin.
Depuis mercredi matin.
Et ça va?
Ça va bien.
Ok, vous me dites si jamais, hein, si peut amener du chocolat ou du jus d'orange, ou un café même. Non, mais c'est vrai que c'est un sacrifice, il faut une motivation incroyable pour en même temps mener une jeune start-up et en même temps mener un apprentissage. Vous trouvez où cette énergie?
Je la puise, je sais pas, dans le regard en fait que les gens ils ont autour de moi, quoi. Je discute des fois avec des personnes, même sur les chantiers, des personnes âgées quand on travaille sur un room par exemple. Mm-hmm. Puis ils me disent, mais ça fait plaisir de voir des jeunes motivés, puis des jeunes déterminés qui vont faire plus qu'un simple apprentissage, et puis après des autres études qui sont déjà motivés de base à faire plus.
Il y a quand même un gros risque là derrière. Vous n'avez jamais peur que ça ne fonctionne pas, puis d'avoir mis tout cet argent pour rien, d'avoir mis tout ce temps pour rien, puis de devoir reprendre quelque chose de plus conventionnel? Ça ne vous traverse jamais l'esprit?
J'avais une ligne de plan B, et puis j'avais pas mal tergiversé là-dessus. Puis maintenant, ouais, je me dis que, vu l'ampleur que ça prend gentiment, y a moyen de faire.
Il faut y aller à fond.
Oui, il faut se donner à fond, puis pas jamais douter.
Il y a un autre aspect quand on dirige une entreprise, c'est tout l'administratif, une grosse charge administrative. Ça, c'est quelque chose qui vous avez affronté comment?
Au début, à la rigolade, bien entendu. Et au fur et à mesure, il a fallu passer pour des professionnels, en fait, vu qu'on devient des professionnels et on est des professionnels actuellement. Et donc, c'est énormément de discussions avec des personnes qui sont calées dans le domaine, avec des fiduciaires, avec des banques, avec des gens comme ça qui peuvent nous orienter dans la bonne direction aussi, pour avoir plus de facilité donc, pour créer son entreprise.
C'est difficile d'être pris au sérieux quand on a moins de 20 ans?
Absolument, c'est vraiment difficile. Quand on débarque devant, par exemple, pendant une démonstration au Diableret à Glacier 3000, quand on débarque devant 60 secouristes du secours alpin, donc tous les chefs d'équipe de la Suisse romande, qu'on a 19 ans, qu'on n'a pas beaucoup dormi de la nuit et puis qu'on montre notre projet. D'abord, on a plutôt 80% de personnes qui sont moyennement motivées par rapport à ce projet, puis 20% qui portent un petit intérêt. Et puis quand on a fini la journée, qu'on leur a montré que ça fonctionne, qu'on a volé sur un terrain d'entraînement, il y a plutôt l'inverse. Il y a plutôt 80% qui sont plutôt motivés par ce projet et puis ils veulent voir la suite. Et puis 20% qui sont un peu plus restrictifs.
Il faut vraiment y aller au culot, en fait. Il faut un peu enfoncer les portes.
Oui, clairement, il faut faire des coups de fil. Il ne faut pas avoir peur de se vendre. Il faut discuter avec les gens. Il faut leur montrer qu'on a quelque chose quand même de solide, qu'on a un projet qui fonctionne, un appareil qui vole. Et puis après, on verra.
Vous êtes organisé à deux. Vous êtes deux partenaires dans cette entreprise. Vous avez des spécialités ou vous faites les deux de tout?
Alors, on a vraiment chacun son domaine, plutôt. Moi, dans le développement, dans le pilotage, et lui, vraiment, donc mon partenaire Léonard, il est vraiment dans tout l'aspect marketing, quoi, pour le suivi, pour le site internet et des choses comme ça.
On va parler de ce qui fait une des grosses spécificités de votre société, ces drones développés pour secourir des victimes d'avalanches. Avant ça, revenons sur ce que tout le monde connaît, le drone qui fait des photos, qui fait de la vidéo, ce qu'on voit de plus en plus souvent. Il y a une concurrence qui est énorme sur ce secteur. Comment vous tirez votre épingle du jeu?
Alors, sur le secteur photo et vidéo, il n'y a pas vraiment de concurrence, en fait. C'est plutôt des gens qui vont acheter un drone qu'on peut trouver dans tous les magasins, sur un Phantom 4 ou quelque chose comme ça, et qui vont proposer des services à 60 francs de l'heure, par exemple.
Mm-hmm. Et, c'est de la concurrence.
C'est de la concurrence, on pourrait dire, mais c'est vraiment pas des services professionnels. Et puis, avec les lois qui sont mises en place et qui sont en train de se mettre en place pour la suite, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir voler juste pour le plaisir. Et puis, il y a déjà toutes les réglementation de l'OFAC, typiquement pour le respect de la sphère privée, plutôt des trucs comme ça. Des fois, je vais sur des sites amateurs pour voir un peu ce qu'ils proposent. Et puis, une photo sur deux qui est illégale, vu qu'il y a des bâtiments à côté qui ont été pris en photo, il y a des zones, des fois, qui ne sont pas respectées, aux alentours des aéroports, etc.
Vous avez tous les documents. Vous m'avez dit que c'est des 450 pages des classeurs fédéraux à remplir pour avoir cette autorisation, c'est ça?
Oui, alors il faut avoir énormément de temps pour faire de la paperasse. Ouais. Clairement, puis il faut des tonnes de classeurs et puis d'autorisations pour pouvoir voler en dessous des manifestations, pour montrer des concepts de sécurité, etc., pour être pris au sérieux et puis pouvoir avoir légalement l'autorisation de voler typiquement en dessous d'une braderie ou en dessous d'une manifestation.
Mais c'est encore une zone grise, la législation aujourd'hui. Les gens ont le droit d'utiliser des drones.
Alors il y a des directives qui ont été mises en place par l'OFAC assez rapidement pour réguler clairement le trafic des drones. Il y a ceux qui les respectent, il y a ceux qui les respectent pas. Il y a à peu près quatre règles assez simples, où c'est qu'il y a l'interdiction de voler en dessous des manifestations, il y a les zones autour, les 5 km autour des aéroports, il y a la sphère privée, Et il y a tous les vols où c'est que le drone il a plus de 150 mètres du pilote, où c'est que le pilote il a pas le visuel sur le drone. Ça, c'est vraiment les quatre directives de base. Et après, ben, sinon, pour le reste, il faut ben, beaucoup chercher.
Il y a des contrôles qui sont faits, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que ces règles sont respectées, souvent dans les images qu'on peut voir.
Ben alors, dans la région, pas trop.
Oui.
Mais ça commence gentiment à se mettre en place. On a vu aussi un reportage où c'est qu'il y avait la police à Genève qui se mettait en place pour ben, prendre compte de ce nouveau problème, en fait. Mmh. Et sinon, nous, on essaie de travailler avec la police quand on a la moutier aussi, pour ben, pas... que on, des fois ils arrivent quand on vole, typiquement par exemple à la collégiale à Moutier, à côté il y a la prison, puis les policiers ils arrivent et puis ils disent mais vous n'avez pas le droit. Mais on dit bah si on a le droit, c'est juste que on doit respecter certaines zones et puis on n'a pas le droit de survoler bah, typiquement la prison, mais on va utiliser des autres couloirs pour pouvoir voler. Donc il y a aussi toute une formation des personnes qui sont concernées par la loi qui va falloir mettre en place.
Beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Nadia vous a rendu visite samedi passé, vous étiez avec votre équipe sur les hauteurs de Moutier. Elle a vécu avec vous le tournage d'une vidéo de promotion qui sera bientôt disponible sur leur site, elle n'est pas encore. Hein.
Non, elle n'est pas encore.
Pas encore, vous nous direz quand elle le sera, on relaiera. Entre pose de caméra fixe et drone qui survole les routes, voici les coulisses de cet après-midi.
Sortie de boîte.
On va monter aux Écurcheresses donc pour commencer le tournage avec un rapide briefing de toutes les personnes qui sont là. Puis ensuite on pourra commencer à filmer pour vous montrer des séquences qu'on est capable de filmer en drone, avec aussi des plans donc au sol, avec plusieurs caméras dans les véhicules et puis placées sur le parcours. Puis parce qu'on a aussi bah, toute la partie post-production donc dans notre entreprise, où c'est qu'on va faire le montage de A à Z de la vidéo, du tournage jusqu'au rendu final qu'on distribue bah, aux clients.
Donc là, vous posez la première caméra ?
Ouais, on va poser la première caméra donc pour commencer à s'installer puis filmer.
Hein ? Ah, pour le couvrir ?
Ouais. Tu fais un trou pour l'objectif ou pas ?
Mmh.
Tu fais juste un trou pour l'objectif ?
Tu
peux prendre la voiture et puis vous mettre juste un étage en dessus là ? Ouais.
En fait, il y aura les quatre qui vont monter à fond de balle.
Les trois...
La Soub, la Toyota, la Nissan.
Ouais.
Donc là, vous venez de donner des directives, c'était lesquelles ?
Donc c'était les directives pour la partie sécurité, et puis pour le tournage, donc avec toutes les caméras qu'on a disposées sur les différents tronçons de la route. Puis maintenant, on est prêt, donc on va aller en bas, on va installer le drone, et puis après, on pourra commencer à filmer.
Et puis le convoi, il sera composé de quoi ?
On aura trois voitures et puis une moto, avec deux motards dessus. Et donc ce sera en formation assez rapprochée, donc il y a des trois voitures avec la moto qui est au milieu du convoi pour toute la montée.
Quelle fonction il aura le drone aujourd'hui ?
Alors le drone il va nous permettre d'avoir des images aériennes sur différents tronçons qu'on a décidé de filmer avec le drone. On sait qu'on avait suffisamment d'espace et puis il n'y avait pas d'arbres. Puis pour le reste sinon on a les caméras donc dans les véhicules.
Donc là c'est votre drone ?
Celui-là ouais.
Tu peux m'expliquer un petit peu les parties du drone ?
Donc ici vous avez les bras qui sont montables avec les pales ici. Là, il y a le rotor. Ici on a un système de GPS. Ici, tout ici on a la nacelle qui est donc indépendante au drone que je pilote moi et qui serait équipée de cette caméra ici qui va pouvoir tout filmer. Moi j'ai une transmission d'image en direct pour pouvoir cadrer en fait. Avec, ouais, c'est comme une boîte Wi-Fi si vous voulez. Une boîte Wi-Fi qui transmet directement l'image de la caméra sur un écran, par exemple un attel ou bien une tablette.
Et puis là, le drone, il sera donc lâché depuis ici et il va survoler en fait la route.
Exactement, ouais, c'est ça.
Et puis vous allez piloter et piloter la caméra ?
Non, alors celui qui pilote le drone, c'est Tom, et moi, je pilote la caméra, qui est indépendante.
Vous avez fait le tournage du clip pour le site. Maintenant que les prises de vue ont été prises, ça se passe comment maintenant ?
Maintenant, c'est la grosse partie du travail. Donc, ça, c'est la partie plaisir où c'est qu'on est sur le terrain, même s'il pleut, mais on est dehors, au grand air, c'est bien. Puis maintenant, ça va être toute la partie donc, post-production, donc choisir une musique ou bien, alors, composer une musique ou alors... tout simplement mettre des sons, les sons originaux des voitures. Et il va y avoir toute la partie donc montage, où il va falloir sélectionner les scènes, retravailler l'image, travailler le recadrage.
Et puis aujourd'hui, dans l'ensemble, est-ce que ça s'est bien passé ?
Malgré la météo, c'est plutôt bien passé.
On a eu les plans qu'on voulait, on a eu suffisamment de monde, c'était surtout ça la crainte pour pouvoir sécuriser les secteurs et puis pouvoir filmer aussi. Mais étonnamment, on avait suffisamment de monde, donc ça s'est bien passé.
Sortie de boîte.
Et on a atterri, on est de retour dans notre studio de Delémont avec le directeur d'Horizon Drone, Tom Panettieri. On a parlé des drones, de la photo, on a évoqué le direct là, vous aviez directement un retour. Faire du direct en drone, c'est possible d'émettre en direct?
Alors actuellement, oui, c'est possible de transmettre de l'image depuis le drone jusqu'à sur une station au sol en HD. Et d'avoir, par exemple, pour une manifestation, typiquement, où il y aura un concert, d'avoir le drone en l'air qui va filmer le concert depuis le ciel, et d'avoir des écrans disposés plusieurs endroits dans la ville ou sur le secteur de la manifestation où c'est qu'on aura le retour image.
Ou en Facebook Live?
Ou en Facebook Live, ou en YouTube Live aussi.
La prise d'images, de photos, c'est une de vos activités. Pas la plus originale, parce que vous avez plein d'autres projets annexes autour du drone. Il a fallu faire d'ailleurs des choix au bout d'un moment. Comment vous avez procédé?
Actuellement, on a 13 projets dans plein de domaines avec lesquels on pourrait appliquer avec le drone pour apporter de l'aide dans l'agriculture, au géomètre, etc. Il fallait partir sur un projet qu'on était dans les capacités de concrétiser et d'avoir un peu comme un portfolio, comme une première preuve qu'on est capable de faire quelque chose. Et donc on est parti dans les drones avalanches, vu que c'était un peu l'idée de base déjà avant même l'entreprise, c'était un peu l'idée de pouvoir apporter quelque chose aux secouristes.
Et d'amener une valeur entre guillemets sociale, d'aide, enfin un but qui est plus noble que juste faire de l'argent, c'était ça?
Oui, justement, c'était un peu mon côté altruiste de pouvoir aider les gens, puis de pouvoir surtout protéger les secouristes. Et avec le système qu'on a actuellement en Suisse pour la recherche de personnes sous avalanche, on est vraiment au top au niveau des équipes avec les chiens, au niveau des secouristes, au niveau des balayages avec l'hélicoptère, etc. Puis le seul truc qu'on peut apporter vraiment, nous, notre part, c'est une rapidité de détection des personnes qui sont ensevelies.
Parce que vous dites des drones pour protéger les secouristes, ça veut dire que c'est pour éviter que les secouristes qui se retrouvent sur le terrain soient eux aussi à leur tour sous une avalanche. Pourquoi pour protéger les secouristes?
Alors le but, c'est de vraiment pouvoir déployer une équipe de secouristes avec un drone sur le terrain, qui puisse lancer le drone et puis qu'eux, ils aient plus de temps pour faire une analyse du secteur d'avalanche, pour regarder s'il y a encore des corniches sur lesquelles il pourrait y avoir une deuxième phase d'avalanche, et puis pour éviter d'avoir des personnes qui sont encore en plus ensevelies.
Vous avez d'ailleurs fait une démonstration récemment au Diableret, devant le Secours Alpin Suisse, racontez-nous un peu.
C'était un peu... je sais pas comment expliquer, mais c'était un peu la trouille au début.
Ouais, je pense. C'est un bel aboutissement quand même.
Justement, c'était 2 ans et demi d'aboutissement. Ouais. 2 ans et demi qu'on est sur le projet, puis qu'on y travaille pour arriver avec un premier prototype qui était viable, enfin fonctionnel, et arriver à ça, puis de montrer à des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des années d'expérience, montrer à des pilotes d'hélicoptères, à des maîtres chiens, etc. C'était vraiment un aboutissement, quoi. On est arrivé à quelque chose. Et c'était un peu stressant au début, puis après ça s'est bien détendu sur la journée, et puis on a eu un bon retour.
Il y a une vidéo d'ailleurs sur votre site internet en ligne, sur le nôtre, vous pouvez aller voir sur notre site internet, vous allez retrouver cette vidéo de cette journée. Au final, ça aboutit à quoi? Ils vont devenir clients? Ils vont acheter ce drone?
Alors ça aboutit au fait qu'on a eu exactement la possibilité de développer la fin du drone, la finalisation sur leurs besoins. C'est qu'on a eu un gros feedback de leur part, de tous les secouristes qui étaient présents, pour savoir au niveau de la simplicité d'utilisation, etc. Et ça nous permet maintenant d'avoir justement une version finale qu'on va mettre en test et qu'on va leur mettre à disposition pour qu'ils puissent essayer le drone sur le terrain. Puis on a toute une partie aussi formation qu'on fait avec le drone. Donc maintenant, on peut mettre en place les cours qu'on va dispenser pour les équipes de secours alpin, puis ensuite ce sera une forme de client, quoi.
Vous espérez commercialiser le produit?
L'idée, c'est de le commercialiser et puis de garder l'avance qu'on a actuellement sur ce produit, parce que poser un brevet en Suisse, c'est assez compliqué. Mm-hmm. Donc on a à peu près 6 mois d'avance sur les autres équipes qui se sont déjà planchées sur le projet en Suisse, et on a déjà justement une version finale et fonctionnelle.
Donc il y a un calendrier, il y a un agenda, vous espérez commercialiser quand?
L'idée, ce serait pour en mettre déjà à disposition dès les mois qui viennent, donc dans des stations, pour qu'ils puissent faire des tests sur les terrains d'entraînement, etc. Et ensuite, ce serait pour 2017-2018, équiper les équipes, ouais, équiper les équipes de secours. Et ben, pour le mois de août et septembre, ben, faire de, beaucoup de formations pour qu'ils soient opérationnels dès octobre, novembre.
Très concrètement et assez rapidement, parce que le temps passe vite, qu'est-ce qui distingue un drone de recherche de victimes d'avalanche d'un drone standard ?
Alors le drone de recherche de victimes d'avalanche, il a été complètement conçu par rapport aux besoins de la montagne, donc au froid, au vent, à l'eau qui pourrait s'infiltrer à l'intérieur. Et toute la motorisation, elle a été pensée ben, pour apporter beaucoup de stabilité. Et puis, il y a toute une grosse partie de travail donc, sur la balise pour rechercher les personnes qui sont sous, sous la neige. Où c'est qu'on a dû travailler pour, avec la HES à Saint-Imier pour qu'ils nous développent une carte pour pouvoir faire que le drone soit autonome une fois qu'il est en l'air.
Et il est important d'être précis. La précision, il en est aussi question en ce moment du côté de Bâle, puisque Baselworld ouvre aujourd'hui. Retour sur un incontournable de l'horlogerie. Dans Pile à l'heure, Marie-Lise Saillard a sorti tous les chiffres des années précédentes autour du salon de l'horlogerie pour nous en ressortir les plus intéressants.
Pile à l'heure.
Nous sommes le 23 mars et cette année, cette date correspond à l'ouverture du plus important salon horloger du monde. Il est en Suisse, à Bâle, et c'est bien sûr Baselworld. Baselworld, c'est un rendez-vous qui a de quoi vous faire tourner la tête. À Baselworld, pas de place pour l'improvisation, tout est savamment mis en scène.
C'est parti, les trois caméras. Si tout le monde est prêt, action!
Car c'est bien de cela qu'il s'agit, en mettre plein la vue, se faire connaître, faire parler de soi. Le salon s'étend sur 141 000 mètres carrés. 141 000 mètres carrés, ça fait presque 20 terrains de foot. Sur 141 000 mètres carrés, on pourrait presque construire 3 pyramides de Khéops. Walk like an Egyptian. Baselworld attire chaque année environ 150 000 visiteurs, l'affluence de près de 3 éditions du marché concours de Seigne-Légier. Les allées du salon sont arpentées par environ 4400 représentants des médias, c'est deux fois plus qu'au Tour de France. À Baselworld, il y a 1500 exposants représentant 40 pays. En 2014, le stand le plus modeste faisait seulement 6 mètres carrés. Le plus grand stand plafonnait à 1625 mètres carrés.
Oh my god, c'est énorme!
Baselworld, ça dure une semaine jusqu'au 30 mars et c'est cette année la 101e édition.
Pile à l'heure.
Et on reviendra évidemment sur ce salon dans nos différentes éditions d'information. Ce soir, Sortie de boîte s'intéresse à l'entreprise de Moutier, Horizon Drone, avec son jeune directeur, Tom Panettieri. On a parlé des photos, on a parlé de la vidéo, on a parlé du drone qui va secourir des victimes d'avalanches. Mais comme vous avez encore un petit peu de temps, la nuit, au lieu de dormir, il y a un autre projet qui existe, celui de monter une école de drones dans la région. Il en est où ce projet ?
Alors, on cherche à pouvoir former les gens pour les responsabiliser, pour qu'ils développent un peu un bon sens par rapport à ces drones, pour éviter ben, tout accident qui pourrait, au fur et à mesure du temps, ben, compliquer les lois, tout simplement. Donc, on est en train de regarder avec une école pour faire un partenariat sur la région de Genève, pour pouvoir ouvrir quelque chose donc à Moutier, dans laquelle on pourra former des pilotes, parce que prochainement, donc, l'OFA qui veut modifier les lois pour passer à un brevet qui sera obligatoire. Et donc l'idée c'est d'avoir une préformation déjà pour toutes ces personnes et d'avoir déjà le niveau requis ben, pour ce qu'il faudrait pour ce permis de
licence,
quoi, cette licence. Ouais. Donc
parce que c'est pas aussi simple que ça. Donc ce projet d'école à quel calendrier, quand c'est qu'elle pourrait avoir le jour cette école à Moutier?
Pour cet été, ce serait bien.
Ah oui, pour cet été, d'accord. Cet été, ouais. Au moment où vous terminez votre apprentissage de ferblantier en juillet, l'idée après c'est que vous soyez 100% dans cette entreprise.
Ouais, l'idée c'est déjà ça. Puis déjà actuellement c'est presque un 100%.
Oui, un 100% la nuit. Donc vous pourrez faire un 100% le jour et retrouver des nuits de sommeil, c'est un peu la bonne nouvelle.
Ce serait bien, ouais.
Mais en tout cas, merci d'avoir été notre invité ce soir. Vous retrouvez cette interview, des photos, des vidéos de vos drones, tout ça sur notre site internet. Bonne soirée à vous.
Merci, vraiment.
La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Pierre Herrera, directeur de CD-ROM. C'est une entreprise du Noirmont qui fait de l'hébergement informatique. Vous verrez, c'est aussi sécurisé qu'une banque, sauf qu'au lieu de l'or, on a des données sous le sol. On va vous y emmener à jeudi prochain, donc, et très bonne soirée à tous.